Pierre Rude.
Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. S'il y a quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs, c'est le 88-971-1021. Est-ce qu'il sera aujourd'hui cet ami qui m'offrira son épaule pour pleurer? Je ne sais trop. Je ne sais trop. Pierre Rude, comment ça va?
Je suis prêt à te l'offrir de façon virtuelle.
C'est très apprécié.
Mon épaule à distance. Ma blonde dit souvent qu'elle aime mes belles grosses épaules. Alors, je peux te l'offrir à distance, mais j'ai bien peur que tu vas devoir te rabattre sur Véro et Audrey, d'abord et avant tout.
Oui, elle me donne beaucoup, beaucoup d'empathie par rapport à mes Bruins de Boston.
En fait, il n'en parle presque plus. Là. Il avait comme pas le choix hier.
C'était le premier match des Bruins que je voyais depuis l'échange de Brad Marchand. Je faisais juste regarder les scores pendant leur pitoyable voyage dans l'Ouest. Et puis, je pense que vous en avez fait mention à RDS aussi. Les 10 premières minutes de ce match-là, je pense que c'est les 10 pires minutes que j'ai vues dans la Ligue nationale de hockey cette année, parce que le Canadien, ça a commencé mou et désordonné aussi. C'est juste que les Bruins, eux autres, sont restés là pendant 3 périodes et sont devenus la définition parfaite de c'est quoi une équipe qui va nulle part.
Ben, écoute, ta lecture est légèrement teintée de partisanerie, mais t'as pas tort, globalement, parce que c'était ça le match. Écoute, le plan de match était bon là, pour les Bruins. C'est une équipe, on le sait, qui est dégarnie. C'est une équipe qui... et puis ça, on pourra en reparler dans quelques secondes, là, Denis. On se demande s'il y a vraiment un plan de relance pour cette équipe. Mais on garde ça sur la glace. Mais pour revenir au match d'hier, moi, je croyais, comme toi, que les Bruins avaient la bonne recette pour battre le Canadien. Mais il aurait fallu que ça dure, puis il aurait fallu que ça dure, puis il aurait pas fallu que tu accordes le premier but, puis il aurait pas fallu que tu commences à jouer avec la confiance de cette équipe-là. Mais en même temps, la confiance, c'est bien beau, puis tu veux en acheter trois, quatre paquets à l'épicerie, mais il reste que la confiance, ça doit venir aussi du talent, Denis, puis ça doit venir avec la profondeur, enfin, un minimum de profondeur, ce que les Bruins n'ont pas présentement. Et que tu le veuilles ou non, McAvoy qui est absent,
en plus,
c'est énorme
oui.
Dans la réalité. Tous les joueurs qui sont partis. Et c'était, moi, une de mes questions de départ à Marc. Comment tu gardes le moral pour les quelques vétérans « vedettes » entre guillemets qui te restent?
Ça doit être
Pasterniak. Pasterniak, c'est pas « vedette » entre guillemets, ça demeure un des meilleurs joueurs au monde. Mais je pense à Zaka, je pense à Lindholm. Même Swayman, ton gardien, il était bon hier, c'était pas de lui. Là.
Oui, chance qu'il était là.
Oui. Alors, tu sais, tu dis comment tu vas garder le moral de ces vétérans-là? Alors que le Canadien, quand on s'en parlait il y a 3-4 ans, toi puis moi, on disait, ben il y a au moins, et c'est toi qui le disais, il y a au moins un plan à acheter pour les partisans. Ou tu l'achètes ou tu ne l'achètes pas, tu as le droit. Mais il y avait quand même un plan qui était clair. Un plan qui était basé sur de bons choix de repêchage, sur l'accumulation de choix de repêchage, et de ce volume, espérait-on, allait venir une base intéressante et solide pour l'avenir. Et c'est en train de se concrétiser, alors que les Bruins, Denis, ne sont même pas encore à l'étape où était le Canadien à son tout début de processus.
Ça me surprend un peu, Pierre, parce que nous autres, en tant que partisans et en tant que tripeux de hockey, on voyait que les Bruins étiraient l'élastique quelques années supplémentaires qui n'étaient pas supposées au niveau du talent, au niveau des performances. Puis je me disais dans ma tête, ben, des bons gestionnaires de hockey le voient clairement puis préparent la suite des choses. Et ça ne semble pas avoir été le cas. On dirait qu'on a décidé de surfer sur la vague, ce qui fait en sorte que les big bad Bruins, le bad voulait dire méchant, mais là, le bad veut dire juste mauvais, là, d'après. Puis, tu sais, la robustesse des Bruins de Boston, habituellement, c'est une de leurs forces. Hier, je trouvais, Pierre, que c'était une robustesse de mauvais perdant, d'une équipe qui perd depuis 2 semaines, puis qui n'a plus de patience, puis qui n'est pas disciplinée, qui n'est pas focussée. Puis, puis je pense que ce manque de focus-là sur la glace, c'est peut-être le même manque de focus qu'il y a au deuxième étage présentement à Boston, là.
Oui, peut-être, parce que... mais en même temps, il ne faut pas tout mettre sur le deuxième étage, parce que tu es aussi responsable envers tes partisans, Denis. Alors, tu sais, tu as tout à fait raison quand tu dis ils ont étiré la sauce à Boston.
Oui.
Mais ils ont étiré la sauce comment? Ils ont étiré la sauce comme à Montréal, on l'a étiré pendant un bout de temps. Tu avais le meilleur duo de gardien de but de la Ligue. Puis c'était clair que tu n'allais pas pouvoir garder les deux. Mm. Et c'était clair que le succès de l'un et l'autre était basé sur le partage presque moitié-moitié entre les deux. Il y avait une chimie que j'ai rarement vu, moi, entre Swayman et Ullmark.
Oui.
Tu te rappelles le rituel après une victoire?
Oui.
Et un voulait être meilleur que l'autre voulait être meilleur que l'autre, un voulait pas laisser tomber l'équipe. Ça commençait par ça. Ensuite, et particulièrement quand les grands départs sont survenus, c'est-à-dire ceux de Krejci et ceux de Bergeron. Puis Marchand, tu sais, Brad Marchand, aussi avec son leadership, son expérience, réussissait à colmater des brèches. Puis tu t'en tirais avec Charlie Coyle puis avec Pavel Zacha au centre. C'est oui. Bon. Mais il reste que ça commençait d'abord devant le filet. Puis, je répète, quand McAvoy était là, puis Brandon Carlo, puis tu avais toute cette profondeur à partir de la ligne bleue, c'est là où les Bruins pouvaient gagner leur confiance. Pis après ça, l'attaque fait le reste, mais sans minimiser, mais c'était une recette qui pouvait tenir. Mais même cette recette-là, le plafond salarial a fait qu'il fallait qu'elle s'effrite.
Ouais, ouais.
Et je peux comprendre Don Sweeney, à la dernière date limite des transactions, de dire « Je dois avoir le courage de commencer le processus. » Et comment je le commence? Ben, je le commence en liquidant un paquet de joueurs et en mettant Brad Marchand sur le marché. Maintenant, c'est là où je disais en onde hier, on va tester la patience des Pastrniak. De Pastrniak en particulier, et de McAvoy en espérant qu'il soit en santé la saison prochaine. Et on va aussi, surtout, Denis, tester la patience de partisans très bruyants, très exigeants,
oui,
que sont ceux des Bruins. Parce que tu leur as pas, tu les as pas exposés au processus de relance auquel les partisans du Canadien ont été exposés il y a 3 ou 4 ans.
Tu sais, dans le cas du Canadien, on parle de cette année qui est super belle. On sait que même l'année prochaine puis l'année d'après, il y a de nouveaux joueurs qui vont venir se greffer. Tu sais, on a fait notre recrutement sur le sens du monde.
Mais là, on a une entente avec Jacob Fowler là, qui est tombé aujourd'hui.
En commençant par lui, Véro. Ouais.
Et les Bruins, est-ce qu'ils ont fait ça aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'avenir qui peut laisser croire que, oui, c'est un mauvais bout à passer, mais de la manière dont on a repêché dans les dernières années, faites-vous-en pas, ça va aller rapidement ou c'est le néant?
Ben, écoute, je regardais Liesel hier, Fabian Liesel. Il a des belles aptitudes, mais il s'est fait frapper par à peu près tout ce qui bougeait. J'ai jamais vu un joueur, une éponge. Il attirait les mises en échec pendant tout le match. Il va être bon, lui. Et c'est pas pour rien qu'on lui donne de la glace. Je regarde Lowry. Je pense que Lowry va se développer comme un bon quart arrière à la ligne bleue. Et là, je te parle, Véro, des joueurs que moi, j'ai vus.
Oui.
Tu sais, honnêtement, je n'ai pas suivi beaucoup Providence cette année. Peut-être que Denis en sait plus que moi là-dessus. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai vu hier, tu as quand même des éléments intéressants. Tu sais, Morgan Geeky, il n'est pas vieux, il est en pleine expansion. Il va y avoir des ressources à Boston. Mais les Bruins, c'est d'abord et avant tout Pastrniak, McAvoy. C'était Brad Marchand jusqu'à il y a quelques semaines. Et est-ce qu'il y a vraiment en banque, non seulement à Providence, mais est-ce qu'il y a en banque dans les rangs de développement, soit universitaire, soit majeur, junior majeur canadien, est-ce qu'il y a des ressources suffisantes? Personnellement, je ne crois pas. Je crois que si tu veux une reconstruction puis une relance solide, tu vas devoir sacrifier probablement des joueurs pour avoir des choix. Comme là, ben écoute, si la glissade se poursuit, Denis, c'est ta seule consolation.
Ben oui.
Là, t'es quoi? T'es quatrième?
Ben oui.
T'es quatrième par le bas, là?
Dernier dans l'Est, quatrième par le bas.
Alors, donc, t'as une bonne probabilité pour un repêchage dont on dit qu'il n'y aura pas de spectaculaire, mais qu'il va être bien, bien balancé, bien équilibré. Alors, ça commence là, Véro. Tu sais, dans le fond, là, ça commence par un premier résultat catastrophique pour les partisans. Mais en même temps, tu dois être capable de leur dire, voici le plan qui est rattaché à ça. Puis ça, Denis, je suis pas sûr que la direction des Bruins l'a faite avec sa base de partisans.
On va ramener le spotlight sur l'équipe qu'il mérite. On va parler du Canadien de Montréal. Oui. Puis,
tu vois comment je suis fin. Je prends les 10 premières minutes pour te consoler.
C'est comme une
parler
thérapie.
De ton équipe.
Merci.
Voilà.
C'est très gentil.
Ça nous évite de l'endurer. Pierre.
D'ailleurs, c'est pour ça que je suis avec vous tous les vendredis. Je suis votre thérapie. Mais vous êtes la mienne aussi.
Ça va dans les deux sens. Vous avez montré un tableau qui m'a fait réaliser quelque chose hier pendant la première période à RDS sur les gardiens de but qui sont encore utilisés comme des numéros 1, c'est-à-dire qu'ils jouent beaucoup de matchs cette année pendant la saison régulière. Puis on voit que Jeremy Swayman et Samuel Montembeault ont sensiblement le même nombre de matchs de jouer depuis le début de la saison. Swayman a une saison difficile qui n'est pas à la hauteur malgré le fait qu'il a livré un très bon match hier. Je veux parler de Samuel Montembeault en réalisant le nombre de matchs qu'il a joué versus la situation dans laquelle il était l'an passé, là, comment est-ce qu'on appelait la vieille série, Vivre à trois?
oh mon Dieu, c'est vrai dans le temps.
Puis je ne sais pas lequel des gardiens était Chrissy, mais ça, je laisse ça à votre interprétation. Mais Samuel Montembeault a réussi son step-up cette année, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. On a parlé du fait qu'il était fatigué en fin de saison, on a parlé du fait qu'il était beaucoup utilisé. Moi, j'ai le goût d'y envoyer son bouquet de fleurs aujourd'hui, parce que quand on le compare à un Jeremy Swayman qui devait assurer pas mal plus que ça...
Ça va dans l'autre sens pour Montembeault.
Je pense qu'il fait partie des choses cette année qui ont fonctionné à Montréal. Mmh. C'est normal qu'on parle de Caulfield, de Suzuki, qu'on parle de Lane Hudson, mais je pense que Samuel Montembeault a réussi à monter son jeu d'un cran et à être un rouage important de ce qui marche chez le Canadien.
Oui, absolument, Denis. Puis je fais une courte parenthèse. C'est pour ça que Swayman, là, faut que tu lui donnes le filet le plus souvent possible d'ici la fin. Mm. Faut que son entraîneur des gardiens dise « Jeremy, viens-t'en dans le coin, là. Oublie l'équipe, oublie le score final, oublie ça. Je veux te voir dominant, ou en fait, je veux te voir solide,
goal
confiant, exactement d'ici la fin de la saison.
Ouais. »
Fin de la parenthèse. Dans le cas de Samuel Montembeault, c'est un processus qui se poursuit, Denis, puis on a peut-être tendance à l'oublier, mais il est arrivé à Montréal vraiment vert comme une Granny Smith, là, parce que c'est pas en Floride où il a vraiment développé sa carrière. Mm. Il est arrivé à Montréal, puis il est arrivé dans la marmite. Qu'est-ce que tu veux? Tu es un Québécois, tu viens de Montréal ou de la banlieue, et puis tu arrives dans le grand club. Le grand club qui n'a pas eu de gardien numéro un solide depuis Carey Price, qui, tu vas me dire, ça fait pas si longtemps, mais il reste que Carey Price n'avait pas eu jusque-là... On n'avait pas eu la preuve d'un remplaçant pour Carey Price. Et Montembeault n'est pas à la hauteur d'un Carey Price, d'un gardien complètement élite. Mais ce que j'aime de Samuel, c'est une progression. Et la très bonne décision pour lui est survenue il y a quelques années quand on l'a invité au championnat du monde de hockey. Il y a beaucoup de gens qui minimisent le championnat du monde. Ils n'ont pas tort. Mais il y a des bases du championnat du monde, de participation au championnat du monde, qui sont extraordinaires. Moi, j'ai vu des joueurs qui sont allés au championnat, Denis, avant d'être admissibles à la Ligue nationale. J'ai vu Sébastien Aho être absolument hallucinant pour la Finlande dans des matchs de championnat du monde. J'ai vu Austin Matthews avant qu'il soit apte à joindre la Ligue nationale. Et il y a Juraj Slavkovský, pour la Slovaquie. C'est une plateforme pour des joueurs qui ont un talent suffisant pour s'exposer et pour gagner en confiance. Puis Samuel est allé gagner la médaille d'or quand il est allé. Et ça, que tu le veuilles ou non, puis Marc Denis est allé, puis lui aussi, il a vécu ce que c'était le championnat du monde. Ça te donne un tremplin et ça te donne un élément assez intangible ou impondérable, mais en même temps, ça t'assure d'une base supplémentaire. Donc, premier élément. Ensuite, il a gagné en technique. Il a gagné en nombre de matchs. Après ça, la sélection à la classique des quatre nations. Je comprends qu'il était le troisième gardien. Il reste que tu dis, on n'est pas 12, on est 3. Oui. Je suis un des 3. Ça, c'est un podium. Alors, et puis pendant que tu ne joues pas, ben, tu observes la compétition, puis tu observes les autres gardiens, puis tu es capable de te placer dans une meilleure référence personnelle. Tout ça, ça fait partie de l'ensemble pour Samuel Montembeault.
Et dans le grand scheme of things, comme diraient les Anglais, bien, ça te permet de continuer de développer tes jeunes gardiens puis d'avoir une meilleure appréciation de vers quelle direction ils s'enlignent et à quelle vitesse ils progressent, un Caden Primo, un Fowler et ainsi de suite.
Et là, je suis content que tu en parles, Denis, parce que quand Véro dit qu'il faut que tu commences quelque part, puis faut que tes jeunes, tu les choisisses, puis après ça, il faut que tu les développes, puis après ça, tu espères qu'ils vont t'amener à un autre niveau. C'est ça, la séquence. Mais le Canadien est presque rendu à la troisième étape présentement. Moi, sais-tu comment je dis ça?
Comment?
Moi, je dis souvent, il faut que tu aies d'abord le volume de repêchage. Après ça, tu fais ton épuration. Mm. Puis après ça, tu mets des noms sur les trous à combler avec ton repêchage.
Ouais.
À partir du moment où tu mets des noms, tu es prêt à passer à l'étape ultime. Est-ce que les noms qu'on a placés sur les pions, est-ce qu'ils vont être capables de faire le travail? Et c'est ça qu'on est en train d'atteindre chez le Canadien. On est en train d'atteindre ça avec les attaquants, on est en train d'atteindre ça avec les défenseurs, et maintenant, regarde la belle banque de gardiens de but. Puis je ferai remarquer, je ne sais pas si vous suivez Laval, mais Caden Primo est en feu
ben
présentement.
Oui, brûle la ligue.
Probablement que Jakub Dobesch revient peut-être plus à un niveau normal. C'est loin d'être fini pour lui. C'est pas nécessairement un pétard mouillé. Ça demeure un jeune gardien qui a besoin de travailler sur sa technique.
Mm-hmm.
Fowler s'amène avec des lettres de créance exceptionnelles.
Ouais.
Lui aussi va devoir travailler sur sa technique. Mais il reste que, là, on parle des trois secteurs. On parle des trois zones. Filet, défense, attaque. Alors, c'est extraordinaire. Et pour Montembeault, écoute, c'est un moment formidable pour lui parce qu'il fait le travail. Il livre la marchandise, il paraît mal de temps en temps sur certains buts, mais moi, je déteste pas ça pour un gardien qui est encore, entre guillemets, en développement,
mm-hmm.
parce que c'est là que tu testes son caractère. Tu laisses passer un mauvais but, vas-tu en laisser passer trois
autres? C'est ça.
Ou tu exact. T'enlèves, puis tu continues à foncer. Ouais.
Puis Samuel, c'est là où je... Et dans tout le crédit qu'on veut lui donner, avec raison, Denis, moi, c'est beaucoup là. C'est sa force de caractère qu'il a réussi à développer au fil des années. C'était un gardien qui était... logiquement, beaucoup plus fragile quand il est arrivé à Montréal, beaucoup plus jeune, moins d'expérience et tout ça. Il a appris à développer son caractère et à devenir très compétitif. Et ça, pour moi, c'est un très bon signe. Maintenant, dans un monde idéal, quand on va se parler la veille du dernier match, est-ce qu'il aura gardé trop de matchs, pas assez de matchs? Est-ce que... Ben, pas assez, non, ça, c'est pas une question. Est-ce qu'il en aura gardé trop? On verra. Mais entre-temps, tu es obligé de te rabattre sur ta ressource principale et il livre très bien la marchandise.
Puis entre-temps, ben, il y a des moments extraordinaires, mon Dieu. Le but de Caulfield hier avec son grand sourire, la patience que Suzuki a eue avant de lui faire la passe parfaite, l'ambiance au Centre Bell qui est complètement électrisante. Un paquet de débats qui sont réglés à tout le moins pour la saison. Là, Lane Hudson va être un grand joueur de hockey. Suzuki est un capitaine puis un premier centre. Tu sais, les débats d'estrade, là, je trouve qu'il y a quelques affaires de régler.
Là,
oui, cette année-là aura servi à ça.
Et je vais aller plus loin, Denis. C'est que le Canadien est en train de se faire la preuve à lui-même de ne jamais commettre l'erreur des Oilers d'Edmonton dans le passé, de n'y aller qu'avec des jeunes. Regarde la contribution de Dvorak, Gallagher, Anderson présentement. Je te le dis, là, j'ai autant de plaisir à les décrire en haut, là, dans mon perchoir, que j'ai à décrire le premier trio.
Je comprends.
Parce que j'ai un lien affectif normal, avec mon âge puis mon expérience, mais en fait, mon vécu, je devrais dire. Tu sais, je me sens proche de ces joueurs-là parce que je les côtoie depuis toujours, mm-hmm. tu sais. Et je les ai vus arriver, joueurs recrues. Tu sais, Gallagher, c'est 12-13 la saison du lockout, là.
Hey.
Alors, tu développes une affection à distance, mais tu développes une affection quand même. Et tu dis, tu souhaites les voir aller au-delà de la critique que je peux comprendre avec l'ampleur des salaires qu'on leur verse et avec parfois un certain recul. Mais tu vois comment ces joueurs-là, présentement, veulent assumer leur rôle de vétéran.
Absolument.
Et c'est assumé de la bonne façon, Denis. Gallagher, là, puis Anderson, puis Dvorak, là, ils savent très bien que les vedettes de l'équipe, c'est Montembeault, c'est Lane Hudson, c'est Suzuki, Caulfield. Ils savent très bien que ce sont les vedettes de l'équipe. Et ils n'ont pas la prétention de vouloir l'être et de leur enlever ça avec une certaine jalousie puis une certaine ironie. Eux autres, au contraire, on va vous montrer qu'on est capable de se vider nous autres aussi avec les ressources qu'on a, et ça donne ce que ça donne.
Une autre fin de semaine tranquille pour Pierre Aude. On passe du hockey électrisant au Grand Prix de Suzuka au Japon, où ce sera les débuts d'un pilote local, là, qu'on me dit. Là. Pour le bien de la F1 ou de la série Netflix, on ne sait pas trop, mais ça se passe en fin de semaine.
Hey, c'est pour le bien de tout le monde. C'est à se demander si ça ne rassurera pas les marchés boursiers.
Bon, tant mieux si c'est le cas.
D'ailleurs, je viens de regarder mes rires il y a 10 minutes.
Regarde pas ça.
Apparemment, il faut être patient.
C'est ça, regarde
alors,
pas dans ce temps-là.
Alors, soyons patients.
Oui.
Écoute, c'est pas vraiment un nouveau pilote, mais c'est surtout un gros mouvement de personnel, Denis, parce qu'on a perdu patience après deux courses chez Red Bull. Tu connais un peu, tu commences à être familier avec la F1, là, tu fais tes devoirs très bien.
J'essaie.
T'es familier avec la notion qu'on a la mèche courte chez Red Bull, et on n'était pas du tout content de Liam Lawson comme deuxième pilote aux côtés de Max Verstappen. Et je ne peux pas blâmer Red Bull d'avoir eu un très gros souci dès maintenant. Parce que on a été échaudé l'an dernier en perdant le titre de constructeur parce que tu as un deuxième pilote qui apportait pas d'eau au moulin, qui était Sergio Pérez. On l'a vécu, on est passé par là, et on a beau célébrer encore le titre de Verstappen l'an passé.
Ils sont échaudés, là.
Ah, ça a fait très mal, fie-toi sur moi, d'avoir perdu le titre des constructeurs. Alors, après deux courses, on s'est dit, est-ce qu'on peut être patient? Est-ce qu'on peut être patient 3, 4, 5 Grands Prix? Et après ça, Lawson va apporter la contribution qu'on espérait. On a cru que non chez Red Bull. À tort ou à raison, même Verstappen est assez critique qu'on ait relâché Lawson. C'est un très bon jeune pilote avec plein de potentiel. Mais là où Lawson, je pense, a un peu signé son destin, c'est quand il a avoué rapidement ne pas du tout comprendre cette voiture pointue et rapide. Puis rappelle-toi la déclaration d'Helmut Marko, le souriant Helmut Marko, qui est encore le grand conseiller chez Red Bull. Marko a dit, les grands champions n'ont jamais de voiture facile à conduire. Les voitures rapides ne peuvent pas, par définition, être faciles à conduire. Et les grands pilotes doivent s'y adapter le plus rapidement possible. On n'a pas cru que Lawson pouvait le faire, du moins cette saison. On avait quand même une écurie satellite où le placer. Les Racing Bulls sont loin d'être risibles cette année, et elles sont beaucoup plus faciles à piloter parce qu'elles ont moins de raffinement sur le plan technique. Et donc, Lawson, moi, ce que je lui souhaite, va aller retrouver sa confiance là-bas et va être capable de, aux côtés d'un jeune pilote, un jeune Français, Adjar, qui est plein d'appétit. Et donc, moi, je pense qu'ultimement, si Lawson le prend de la bonne façon, ça va être bien pour lui.
Il s'est fait faire un Caden Primo, si on parle en termes de hockey, là?
Ben, c'est pas faux ce que tu dis, parce que... Non, mais c'est pas une mauvaise comparaison, parce que c'est vrai, c'est un peu ça que Caden Primo a dû subir, mais quelque part, je regarde tous les jeunes à Pittsburgh, Christopher Letang, Marc-André Fleury, ils ont tous été obligés de retourner faire leur devoir à un certain moment, aussi brillants ils pouvaient l'être. Et donc, c'est ce qu'on fait avec Lawson. Dans le cas de Tsunoda, écoute, il a tellement été critique et sévère envers Red Bull de ne pas lui avoir donné l'occasion d'avoir le deuxième volant après toutes ces années de fidélité dans la filière Red Bull. Je te l'ai dit la semaine passée, c'est le pilote Honda, c'est Honda qui le supporte. Honda a tout fait pour essayer de lui ouvrir la porte. La porte ne s'est jamais ouverte pour lui. Mais là, elle vient de s'ouvrir. Il n'y a qu'un pas à franchir en disant « ça donne bien, le Grand Prix est au Japon ». Et puis, oui, Drive to Survive et oui, tout ça. Mais il reste que c'était presque trop parfait pour ne pas se faire à court terme. Maintenant, est-ce que les premiers tours de roue aujourd'hui sont concluants? Oui et non.
OK.
Ce matin, enfin, quand je dis ce matin, la première séance, il s'est tenu à un dixième de Verstappen. C'est fort.
Mm-hmm.
Malheureusement, la deuxième séance, Denis, 4 drapeaux rouges. Et il y a plein de pilotes qui n'ont pas pu faire leur tour rapide avec les pneus tendres. Parce que tu sais que la deuxième séance du vendredi, elle est séparée en 3.
Okay.
Au début, on teste, on revalide ce qu'on a testé à la première séance. Le deuxième segment, c'est peu de carburant, gomme tendre, on prépare la qualif. On voit ce que l'auto a dans le ventre pour la qualif. Troisième segment, un peu ennuyant, pour ne pas dire très, très ennuyant. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, parce que là, on veut voir jusqu'où on peut se rendre avec tel type de gomme pour la course.
La durabilité.
Voilà. Et donc, là, parce qu'il y a eu, il y a eu des drapeaux rouges, puis le chrono continue quand même dans les séances libres. Mm. Le chrono continue quand même. Alors, il y a eu un temps de piste fou dont on n'a pas profité à cause des interruptions. Okay. Et donc, Tsunoda se retrouve 18e, mais il n'y a jamais eu un tour rapide en gomme tendre avec peu d'essence.
Il n'y a pas eu la chance de montrer ce qu'il pouvait
non,
faire.
Non, il n'y a pas eu la chance. Mais honnêtement, je regarde FP1, là, la première séance, c'était rassurant de le voir tourner. Ça semble encore être les McLaren. C'est Piastri qui a le meilleur temps. Mais là, quand même, je vous parlerai de chrono. N'en tenez pas compte parce que c'est une deuxième séance qui a été complètement bousillée. Il va falloir attendre la troisième pour voir qui risque d'être très fort en qualif aux petites heures de la nuit.
C'est à quelles heures, justement, qu'on te rejoint dans tes nuits blanches d'amateur de sport, Pierre, en fin de semaine?
Oui, oui, oui. Eh bien, j'ai le grand bonheur de vous annoncer que nous serons en onde à 1h30.
Oh yes!
La nuit prochaine, pour une qualif à 2h. Et samedi soir, ou dans la nuit de samedi à dimanche, c'est 1h plus tôt, à 18h30, je n'y serai pas, je serai dans l'avion vers Nashville. Alors, c'est mon collègue Frédéric qui assurera la description du Grand Prix du Japon pendant que nous partirons vers ma ville préférée, mais je n'ai même pas le temps d'aller voir une gig.
C'est un peu frustrant. Ça va être une énorme à Nashville. Ah ouais.
Ben, c'est parce qu'on dispute le match à 18h heure locale dimanche et on est dans l'avion tout de suite pour rentrer. Et je comprends très bien ça parce que tu retombes sur tes pattes le lundi puis là, mardi, tu as les Red Wings de Détroit. On verra où sont les Wings dans la course, là. Mais alors, c'est exigeant pour le Canadien, là. C'est Flyers.
Ça doit être exigeant pour Pierrot aussi. Excuse-moi, là, mais tu fais juste me dire ton horaire des fois, puis je suis brûlé. Moi, des fois, je me couche une heure plus tard que d'habitude. Ma semaine est scrap, là.
Bien, honnêtement, Denis, la beauté de mon métier, c'est que à peu près à la fin juin, je connais pas mal mon année au complet.
Okay.
Et parce que quand on soit le calendrier du Canadien, vous savez ce que je fais, je vous le raconte tout le temps, je sors mon ordi et je rentre tous les matchs du Canadien dans mon calendrier. Mmh. On est déjà dans une saison d'F1. Donc, tu vois venir les choses, si vous me permettez l'expression. Ouais. Et ça, on le voyait venir. Alors, il suffit de... Enfin, il s'agit surtout de ne pas trop regarder en avant. Il faut y aller une étape à la fois. Quelle est ma prochaine étape? Hey, Martin Saint-Louis l'a dit. What's next? T'as entendu son point de presse?
Ben oui.
D'abord, il est unique. Puis on va parler de Martin Saint-Louis vendredi prochain parce qu'il n'y a pas grand monde qui en parle encore. Mais quand tout le monde voulait le mettre dehors, il n'y a pas si longtemps, sur cette tribune, je disais, mais pourquoi faire ça?
C'est tellement, vrai, c'est cette saison-ci, ça.
Pourquoi sortir celui qui est obligatoirement celui qui doit mener cette équipe-là parce que c'est lui qui est là depuis les premières coulées du solage? Alors,
quand le Canadien va lever sa Coupe Stanley, s'il se rende là, il faut que Martin Saint-Louis soit encore là.
Je lui souhaite. Ouais, je lui souhaite de donner. Ouais. Puis ça prend un paquet de facteurs pour soulever la Coupe Stanley. Mais au moins que l'équipe se rende d'abord en série cette année, un peu plus loin les prochaines saisons, déjà là, ça va être très méritoire pour lui.
Ah oui.
Alors moi, j'aborde ma vie maintenant, comme Martin Saint-Louis l'a suggéré à ses joueurs, what's next? Alors, tu vois, là, je me pose la question, après vous quitter, what's next? Eh bien, mais tu sais quoi, je ne sais même pas ce qui m'attend quand je quitte.
Je sais une chose, c'est que quand ton suppléant pour les Grands Prix de F1, c'est lui qui va se brancher avec nous autres le vendredi, là, je vais commencer à flairer un problème de gestion d'horaire, par exemple.
Bien, écoute, ça ou un problème de gestion dans ma tête, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, écoutez, je vous souhaite un bon week-end.
Toi aussi,
profitez-en, puis je ne sais pas si le buzz à Québec est aussi fort que Montréal.
Ah oui, je confirme que oui.
Ben, je vous le souhaite, parce que c'est ça n'a rien à voir avec la partisanerie. C'est important d'avoir des évasions. Et là, ça donne que, présentement, on a une belle évasion qui est rassembleuse, qui rallie tout le monde. On a une belle jeune équipe. Il n'y a personne qui est une pomme pourrie là-dedans. Mm-hmm. C'est un beau groupe avoir évolué ensemble. Alors, profitons-en tous.
Puis le divertissement, là, actuellement, alors que Donald Trump envoie des tarifs à des pingouins, là, on a vraiment besoin de se divertir, Pierre.
Absolument. Et en terminant, Denis, je voudrais remercier ceux qui nous écoutent et qui ont contribué aux radio-télédons de la Fondation des Canadiens pour l'enfance.
Ceux qui ont acheté des sacs mystères, là.
Ben là, les sacs mystères, t'as vu, tu m'as entendu parler de la gestion de l'os.
Oui, il va falloir revoir la gestion de
l'os. T'as vu que je suis capable de retenir les thèmes à la mode. Écoute, les sacs mystères se sont envolés en 10 minutes. Alors, il va y avoir des réunions au sommet, j'imagine, quelque part. Mais bref, on me dit que globalement, on a amassé des sommes records pour cet événement-là.
Ah,
alors, je remercie tous les gens qui ont contribué parce que c'est une cause quand même qui est extrêmement importante. Il ne faut pas la minimiser. Et Geneviève Paquette et toute son équipe à la Fondation font un travail vraiment exceptionnel.
Plus de sacs mystères l'an prochain, c'est un record assuré. Merci, Pierre.
Puis peut-être que je mettrai mes bas à l'encan.
T'as pris les vintage, toi?
Ben, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Mon téléphone a refusé de collaborer. Faut que je me réessaye. Bon. Alors, donnez-moi une semaine et je vous donne une mise à jour.
C'est bon.
Salut, Pierre.
Salut, bon week-end. Salut, bye-bye.
Notre ami Pierre Aude, à mi-chemin entre une fin de semaine de F1 et une fin de saison complètement folle du Canadien. Et on a le privilège de jaser avec lui tous les vendredis à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. Courte pause, on vous...
Gravel dans le retour. Gravel!